Microsoft Virtual Academy, dans lequel vous apprenez à créer une page web et une mise en forme avec son style CSS qui sera associé. Je m'appelle Kian Margrave, je fais partie de Microsoft France et vous pouvez me suivre ou me poser des questions sur Twitter en utilisant @multa. Alors, dans ce module, on va apprendre ce que sont les feuilles de style CSS, on va les comprendre et on va en créer un petit peu pour voir le fonctionnement et voir le principe de comment est-ce qu'on peut faire pour appliquer un style particulier à un élément particulier HTML. Donc, cette fois-ci, on va avoir un tout petit peu d'explications en dehors de simplement écrire du code. Et on va démarrer par quel est l'objectif de CSS. CSS, ça signifie Cascading Style Sheet. On verra pourquoi est-ce que ça s'appelle cascading un petit peu plus tard. Et le principe, c'est d'appliquer des styles et une présentation à une page HTML. Il y a des éléments qui se trouvent dans cette page HTML. Donc, un style, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de valeurs, de noms et de valeurs, de clés valeurs, qui permettent de représenter, et je vais corriger en live la petite faute, de représenter des attributs, qui sont des attributs qui s'appliquent sur un élément, qui vont être par exemple la couleur, qui vont être le fond, est-ce que c'est une couleur de fond, est-ce que c'est une image qui va être en fond d'un élément particulier, la taille de cet élément, la hauteur, la largeur, ce genre de choses, et je pense des dizaines ou des centaines de propriétés possibles qu'on peut appliquer à ces différents éléments. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est qu'on a un ensemble, un style, c'est un ensemble de clés valeurs qui définissent en fait des propriétés, la clé dans le nom de la propriété, la valeur étant la valeur qu'on veut lui appliquer. Par exemple, si on regarde ce que vous voyez à votre écran ici, donc si on veut appliquer un style à tous les éléments H1, on verra, parlera plus tard de ce que sont les sélecteurs qui est en fait ici, à tous les éléments H1, ce qui est entre accolades, c'est ce qui va s'appliquer à ces éléments-là. Donc on a la taille de la police, font-size, qui est à 3EM, qui veut dire que c'est 3 fois la taille standard de la police. On a le poids de cette police-là pour définir qui sera gras ici, ou en tout cas qui sera un poids assez élevé, donc qui sera le plus gras possible. On a la couleur de cette police qui ici sera rouge, et puis on a la hauteur de la ligne dans laquelle on va écrire le texte qui définira du coup l'espace que la ligne aura directement. Donc là, on a défini cette fois-ci à 10 pixels. Donc ça, c'est un exemple très simple. Formater son CSS, c'est quelque chose qui est important, puisqu'en fait, ce fichier, il va contenir potentiellement énormément de lignes de code, des dizaines et des dizaines de lignes de code, et il faut le ranger d'une certaine manière, et en tout cas, choisir ce qui va vous correspondre le mieux. Il y a cette manière de faire, qui est celle que moi j'utilise personnellement, qui est une manière d'organiser et d'avoir un sélecteur avec une indentation, où on a justement la liste des différentes propriétés qui sont les unes en dessous des autres, bien alignées, comme ça on sait à quoi ça s'applique. Mais il y a certaines personnes qui préfèrent avoir la même chose, mais noter de cette manière-là. L'avantage que ça apporte, c'est que quand on a plusieurs éléments, comme ici on peut le voir, bah, ces différents éléments, ils vont être, on peut facilement les voir que j'ai un élément sur H1, H2, H3. C'est très compact, c'est beaucoup plus facile à lire quand on aime bien ce genre de choses. Personnellement, j'ai plutôt tendance à prendre la première manière de les ranger, ces éléments-là, pour, si on revient en arrière, hein, pour les voir plus facilement et voir la liste des propriétés plus facilement, je préfère ça. Après, quelque chose qui est important aussi, c'est, et encore une fois, il faut choisir une manière de faire et ensuite s'y tenir, c'est la manière dont on va ranger et ordonner ses propriétés. On peut choisir un ordre alphabétique, ou on peut choisir par type, catégorie technique, tout ce qui concerne la police, tout ce qui concerne la taille, tout ce qui concerne la marge, par exemple, ou alors par fonction, qui va, et du coup, ce qui va permettre d'indiquer, de les ranger d'une autre manière. Donc on peut ranger ces différents éléments d'une certaine manière, mais il faut choisir un ordre et s'y tenir généralement dans un projet, c'est toujours plus intéressant. Pour définir ces styles-là, où est-ce que ça va se faire? On l'avait déjà fait un petit peu dans le module 3, si vous vous rappelez, on avait commencé à le faire, on en a fait un tout petit peu aussi dans un précédent module dans lequel on avait du style que j'avais défini dans la page. Eh bien, on a trois manières de faire. Soit c'est dans un fichier externe, et dans ce cas, on a ce fichier qui est .css, et ce fichier-là, en fait, sera téléchargé par le navigateur. Et comment il est téléchargé par le navigateur? Parce qu'on indique dans la page que cette page est liée à ce fichier. Donc on rajoute un lien, une balise link, on verra juste après comment. On rajoute un lien et on dit « je suis lié, moi, en tant que page HTML, je suis lié à ce fichier-là ». Il faut donc le télécharger, et c'est ce fichier-là qui va s'appliquer comme style sur ma page HTML. D'ailleurs, on peut avoir un ou plusieurs fichiers CSS qui s'appliquent sur une page HTML pour profiter de plusieurs styles différents. Alors ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est de le faire en ligne, inline. Donc c'est sur chacun des éléments HTML, dans le code HTML, dans la page, on peut rajouter un attribut style égal et puis définir directement un style là-dedans. Donc ça, c'est extrêmement déconseillé, c'est très rare qu'il y ait une bonne raison de le faire, tout simplement parce que on recrée ce qu'on essaye de ne pas faire, justement, qui est de mélanger la définition sémantique de la page, ce qu'on a fait pendant les 11 derniers modules, la définition sémantique de la page et le style, la mise en forme de la page et des éléments. Donc on garde ça séparé, on évite de le mettre dans un attribut style pour chacun des éléments. Et puis la dernière manière, c'est ce qu'on avait déjà fait, c'est dans la page, on a directement intégré à l'intérieur le style qui se fait entre des balises style. Si je vous remontre à quoi ça ressemble, hein, on va retourner sur le module, c'était le 12, le 11. Si je viens dans le before ici, et que je vous montre à quoi ça ressemble, tout simplement, vous allez voir, c'est en fait le style qui est défini ici. Donc entre cette balise-là, style, et cette balise-là, qui est la balise servante, hein, tout simplement, on a du CSS, voilà, avec les différentes informations qui sont définies. Donc ça, on peut très bien le faire, c'est associé à la page directement. Si je veux le faire sur un élément en particulier, ben je vais venir ici, et puis je vais lui dire style égal, et là en ligne, je vais lui donner ces différents éléments. Font, je sais pas moi, color par exemple, égal, black, etc. Et on peut définir les éléments en met point virgule, et puis on en met d'autres et on continue. Donc ça, c'est une manière qui n'est pas la bonne manière de faire, hein, cette mise en forme là. Le style dans la page, pourquoi pas, mais c'est dommage, parce que c'est quand même mieux de l'externaliser dans un fichier pour pouvoir la réutiliser, puisque c'est réellement le but, c'est de pouvoir réutiliser cet élément. Alors reprenons un petit peu le fil de ce que j'expliquais. Donc trois manières, soit un fichier externe, soit dans la page, soit en ligne, dans un élément directement. Alors, pour faire un lien vers une feuille de style externe, justement, on va utiliser link, ce que je vous expliquais juste avant, dans lequel on a le type de relation qu'on a avec ce lien. Donc là, c'est une feuille de style. C'est ce qui fait que le navigateur va l'appliquer, justement, et aller voir que c'est du style CSS. Le lien vers la feuille de style en question, donc là, c'est styles.css. Justement, ça devrait vous rappeler un petit peu ce qu'on avait sur les encres, le href. Le type de fichier, alors c'est pas obligatoire, mais ça donne une information supplémentaire au navigateur que c'est bien du CSS qu'il y a dedans. Et puis, quel média auquel ça s'applique. On va pas rentrer dans les détails des médias, mais le principe, c'est que une page HTML, elle est dans la majorité des cas affichée dans un navigateur web. Mais il y a d'autres médias qui existent qui permettent d'afficher cette page HTML, et on pourrait imaginer créer une feuille de style différente pour chacun de ces médias, la télé par exemple, ou des choses comme ça, parce qu'on sait que intrinsèquement ça ne s'affiche pas pareil sur ces pages-là, et donc sur ces médiums-là. Et donc on en a un qui est souvent utilisé, qui est le média print, qui permet d'avoir une feuille de style spéciale dédiée à l'impression, ce qui fait que quand on imprime une page, automatiquement le navigateur il va passer sur une autre feuille de style qui va peut-être enlever certaines couleurs, fioritures, qui enlève je sais pas moi, la publicité ou ce genre de choses, ce qui fait que du coup on a quelque chose qui est prêt pour l'impression et qui permettra d'imprimer facilement. Un autre élément qui est intéressant dans cette histoire de lien, c'est qu'on peut, dans une feuille de style CSS, importer d'autres feuilles de style CSS de manière à composer une feuille à partir d'autres sous-feuilles, entre guillemets. Donc on utilise le @import, l'URL étant l'adresse vers cette feuille de style-là, ça nous permet de la récupérer directement et de composer une feuille de style à partir d'autres feuilles. Quand on veut commenter du code, c'est ce que ça nous arrive souvent quand on écrit du code, hein, on peut le faire aussi en HTML, on l'a pas vu dans ce cours, mais on peut aussi commenter du code HTML, comme on le ferait en C, en Java, en .NET, en PHP, ce genre de choses. On utilise le slash étoile et étoile slash, qui dit que à partir de là, jusque ici, c'est un commentaire. Et là, il y a un exemple, donc là, c'est du texte hein, pur, mais là, il y a un exemple où on a commenté plusieurs lignes. Donc ça commence ici, ça s'arrête à cet endroit-là. Et donc tout ça ne s'appliquera pas puisque c'est commenté. À quoi ça sert? Ça peut permettre de donner un exemple, ça peut permettre de mettre en attente un style qu'on ne veut pas qu'il s'applique pendant une certaine période. Donc on le met de côté, il ne s'appliquera pas, il est toujours dedans. Ce qui fait que si on enlève un jour le commentaire, on peut le réappliquer, mais temporairement, on l'a désactivé. Ça peut être utile dans certains cas. Alors, un des éléments principaux et fondateurs de CSS, entre guillemets, ou la base de CSS, ce sont les sélecteurs. Le sélecteur, c'est ce qui permet de définir qu'un ensemble de styles, qui sont définis en tracolade, vont s'appliquer à un ou plusieurs éléments de la page. C'est la manière dont on va sélectionner les différents éléments auxquels on veut que ça s'applique. Donc ça permet d'attacher un style à ces éléments-là. Si jamais un ou plusieurs styles CSS s'appliquent au même élément, donc par exemple que il y a un élément en question qui va s'appliquer ou pas, c'est l'ordre dans lequel on l'a défini dans le fichier CSS qui va s'appliquer, donc c'est le dernier. Il y a une notion plus poussée derrière tout ça, qui est est-ce que le sélecteur est plus ou moins précis. Donc si on a le même niveau de précision, dans ce cas, ce sera effectivement le dernier. Par contre, s'il y en a un qui est moins précis que l'autre, ce sera celui qui est le plus précis, peu importe l'ordre. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, en tout cas pas maintenant, parce que ça va vous compliquer un petit peu l'esprit, mais sachez que quand vous définissez des styles CSS qui s'appliquent plusieurs fois, potentiellement, il y en a un qui sera choisi, et il y a une règle bien définie derrière tout ça. Donc, il y a, dans les sélecteurs, il y a trois cas majeurs. On utilise directement un tag ou une balise HTML, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple, H1. Donc, tous les éléments H1 auront ce style-là qui sera appliqué, celui qui est en tracolade, là pour l'instant, il n'y a rien. Ou alors un ID, donc j'utilise tous les éléments, ou en tout cas l'élément qui a l'ID quelque chose, je vais lui mettre un style en particulier, ça permet de donner un style à un seul élément dans une page. Donc là on utilise dièse, puis le nom de l'ID, et ensuite le style qu'on veut appliquer en tracolade. Et enfin les classes, donc les classes qui sont la possibilité de définir un ensemble d'éléments qui ne sont pas forcément la même chose, hein. Ça peut être un H1, un P, tout ça mélangé. On définit une classe qui va s'appliquer à cet élément-là, on donne un nom, et donc le nom de cette classe, on le préfixe par un point, donc on met point le nom de la classe, et en tracolade, tout ce qui est défini là-dedans va s'appliquer à tous les éléments qui correspondent à ça. Comment est-ce qu'on définit une classe? Avec l'attribut classe, on l'avait déjà vu hein, plusieurs fois, on peut, ça on n'en avait pas discuté, on peut appliquer plusieurs classes au même tag. Donc on va donner les différents noms séparés par des espaces, et du coup les styles de ces trois classes-là vont s'appliquer à cet élément, tout simplement. Donc je vous propose de voir tout ça un petit peu fonctionner en démonstration, et donc on va rajouter un style à une page qui existe déjà. Donc j'ouvre le répertoire Before avec Visual Studio Code ici, et donc on a à cet endroit-là, on va retrouver un code HTML dans lequel on a notamment, donc plein de choses que vous connaissez déjà très bien, mais notamment ici un link, qui est le lien de type CSS, avec une relation stylesheet, avec un media all, dont on vient de parler, qui s'applique à tous, vers le fichier CSS qui se trouve à côté, que je vous montrerai tout à l'heure. Et là-dedans, on a des choses très simples, hein, si je vous montre l'affichage, ce que ça donne. Donc j'affiche ça, voilà, ça m'ouvre mon navigateur, Microsoft Edge, j'ai donc par défaut des liens, hypertexte, j'ai du texte, j'ai des paragraphes avec du lorem ipsum, etc. Donc rien de très très compliqué, mais des choses quand même, des petites listes et tout. Si je retourne là-dedans, je vois que j'ai également à certains endroits des spans avec des classes. J'ai une classe important ici, qui définit que c'est quelque chose qui est important, qui doit ressortir certainement. J'ai un ID, SomeSuch, avec quelque chose à l'intérieur. J'ai un ID important ici. Ici, j'ai un titre FirstID. J'ai un titre, un autre quelque chose, une troisième ID, une deuxième suggestion, seconde suggestion, etc. etc. Et donc, tout ça, ça va me permettre d'appliquer des styles qu'on va définir dans le fichier style.css qui pour l'instant est vide. Et on va commencer par quelque chose de très simple. Donc vous voyez ici que le titre H1 il s'applique d'une certaine manière, c'est celui qui se trouve ici. Donc ce style-là, on va redéfinir son comportement, ou en tout cas on va redéfinir certains de ses éléments. Puisque, vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, hein, mais un navigateur il a un style par défaut pour tous les éléments qu'on va lui demander d'afficher, et ce style par défaut, on va le surcharger. On va surcharger uniquement les éléments qu'on définit explicitement, donc ça veut dire que si par exemple je touche pas du tout à la taille de la police, elle restera celle qui est par défaut. Il existe une feuille de style qui est sur internet disponible qui s'appelle reset.css que vous pouvez trouver, qui vous remet tous les styles à zéro, qui enlève tous les styles, qui annule tous les styles de tous les navigateurs et qui vous permet de partir de zéro à chaque fois. Je vous conseille pas de le faire parce que c'est toujours bien d'avoir quelque chose sur quoi s'appuyer. On va faire une première chose qui est le font family, et on va lui demander d'afficher Arial. Dans font family, on demande une seule police, et on va définir une couleur, qui est la couleur du texte, et pour cette couleur-là, on va choisir, par exemple ici, purple. Alors vous voyez que avec Visual Studio Code, on a l'autocomplétion, on a même la couleur que ça va donner, ce qui est plutôt pratique à l'utilisation, parce qu'on voit que, tiens, ça va donner cette couleur-là, ok, c'est plutôt sympa, ça me paraît bien, je vais utiliser ça. Je sauvegarde, et donc si on revient sur la page, et qu'on rafraîchit, on voit bien que la police a changé, et que la couleur également a été modifiée. Alors si on continue tout ça, et qu'on va faire quelques petites autres modifications, donc par exemple, on veut faire que la classe, tout ce qui est de classe important, ait un style particulier, et ce style ce sera color égale red, pour dire que c'est important, ce sera rouge. Si je retourne dans ma page et que je rafraîchis, on voit que tout ce qui est marqué comme important est rouge. Si je retourne dans mon code HTML, qui est ici, on va voir que À cet endroit-là, comme on voit bien, hein, c'est que la classe importante ici, classe importante sur ce paragraphe, c'est bien ces paragraphes-là qui sont en rouge à cet endroit-là. On peut continuer comme ça. Donc là, on a deux sélecteurs très simples, hein. On va faire un sélecteur qui va sélectionner un ID en particulier. Donc j'en ai un qui s'appelle SomeSuch, dans lequel je vais avoir, que je vais décider de mettre ça en bleu pour vous montrer la différence. Donc je rafraîchis, on voit que c'est celui-là qui a été mis en bleu, donc c'est celui qui a l'ID qui est égal à SomeSuch. On voit ici, ID égale SomeSuch. Et puis on peut continuer comme ça et on peut préciser aussi. On peut dire que je veux avoir un comportement différent, donc je veux préciser un petit peu le sélecteur important en précisant d'abord que je veux que ce soit sur un span important. Donc c'est que la classe importante qui est définie sur un span. Et à l'intérieur de ça, là, je vais mettre une autre couleur qui sera dark red, donc ce sera une couleur un petit peu différente. Dark red, voilà, un petit peu différente de celle qu'on a par défaut. Et donc, théoriquement, si je rafraîchis, vous voyez que ce qui était rouge dans Morbihelle Urna, là, ou je sais pas quoi, ça, c'est maintenant pas tout à fait rouge clair, c'est rouge un petit peu plus foncé, puisque c'est un span qui est défini. Si on regarde le code HTML, on voit bien que ici, où est-ce qu'il est le important? Il est un peu plus haut. Voilà, on a le classe important ici qui est sur un span. Et si on descend, les classes importantes ici est sur un paragraphe, donc ça ne s'applique pas de la même manière. Je retourne dans ma feuille de style, puis on continue à faire cette feuille-là. Et là, on va appliquer le même style à différents éléments. Donc on va dire que pour H1, H1, H2, H3 et P.important, donc les paragraphes importants, alors on a un style particulier qui est que on a une marge, la marge de gauche, donc la marge étant ce qui est à l'intérieur hein, de l'élément. Donc j'ai la marge à gauche, enfin la marge étant autour de l'élément, la marge à gauche qui sera de 50 pixels tout le temps. Donc si je reviens ici et que je rafraîchis, on va voir que tous ces éléments-là, ils sont tous décalés à droite de 50 pixels, ce qui me permet de les mettre en avant par rapport à autre chose. On a également des liens ici hypertexte, ces encres-là. Vous commencez à comprendre le principe, hein, c'est vraiment très simple. À deux points. Alors on a plusieurs possibilités. On a le fait que tout le temps pour les liens qui n'ont pas encore été visités, donc d'ailleurs vous remarquez que dans Visual Studio Code on vous aide un peu en anglais, mais bon, on vous dit que c'est une pseudo-classe qui est appliquée aux liens qui n'ont pas encore été visités. Les pseudo-classes, c'est ce qui permet de dire que j'ai mon lien et puis la pseudo-classe, c'est quelque chose qui est généré par le navigateur qui dit ce lien-là, je sais qu'il a encore jamais été visité, donc je vais regarder s'il y a un style de type deux points link qui s'applique à cette encre-là, à ce lien-là. Et pour cela, on va leur dire qu'on n'aura pas de décoration. Donc decoration, ce qu'on peut mettre dedans, c'est dans la décoration, c'est tout un tas de choses, une couleur, plein de choses. Donc on va dire qu'il n'y a pas de décoration. C'est là où on met le souligné aussi, par exemple. Et puis on va mettre color deux points. Donc la couleur, ce sera green, yellow, donc un espèce de vert, comme vous pouvez le voir là. Et donc si je retourne là-dessus, que je rafraîchis, on voit bien que, alors c'est difficile à lire, mais on voit bien que le lien il est dans une certaine couleur particulière, puisqu'il n'a pas encore été visité. Si je continue et que je dis mets un hover, donc le hover, comme c'est indiqué dans la documentation, qui vient avec, c'est ce qui se passe quand on met la souris sur le lien. Donc là on va lui dire que on veut que le text decoration soit underline. Ce que je vous disais, hein, on a enlevé le soulignement. Quand on est par défaut, tant qu'il n'est pas visité. Par contre, quand on passe la souris dessus, il se souligne pour montrer à l'utilisateur, si je rafraîchis, que c'est un lien qui est cliquable. Donc là, on voit pas très bien, mais il y a. Alors, je vais changer la couleur quand même parce que on voit pas vraiment pas bien. Je vais mettre un dark gray, par exemple. Voilà. Et on voit pas non plus. Je vais mettre un quelque chose qui je vois mieux. Qu'est-ce que je pourrais mettre? On va prendre Dark Blue, ça me paraît pas mal ça. Voilà, donc je rafraîchis, donc on voit un peu mieux. Quand je passe ma souris, vous voyez bien que ça se souligne ici, et on voit bien que c'est cliquable et qu'on peut aller dans ce lien-là. Et on peut continuer, on peut dire quand le lien a été visité, donc si on est déjà allé dans ce lien-là, on va mettre une autre couleur. Donc là, la couleur, ce sera Dark Green. Comme ça, on verra qu'il a déjà été visité. Et donc, si je rafraîchis, là, pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais si je clique sur un lien, donc je vais l'ouvrir dans un autre onglet, on voit qu'il passe en vert. Et c'est le cas pour celui-là également. Et ça, c'est en rapport avec l'historique. Donc si vous annulez, donc là ça va vers Wikipédia, hein. Si vous annulez votre historique, si vous enlevez l'historique de votre navigateur, ça repassera dans la couleur d'origine. Mais on ne va pas forcément voir comment on fait ça dépend de votre navigateur. Donc si on continue un petit peu, et que cette fois-ci on va un peu plus loin dans ces pseudo-classes qui ont été un petit peu développées, on a pas mal de choses qu'on peut utiliser maintenant. Donc il y a par exemple First Letter. Donc on peut dire que pour tous les paragraphes, j'ai envie que la première lettre, elle soit plus grande que les autres. Elle a une taille particulière ou un style particulier. Là, en l'occurrence, je vais dire que la taille de la police, ce sera 3 fois 3EM, ce sera 3 fois la taille qui est la taille d'origine de la police. On aura un module qui sera dédié à l'histoire des tailles de police et tout ça, hein, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Donc si je sauvegarde ça, automatiquement, pour chaque paragraphe, la première lettre est plus grande que les autres. C'est un style qu'on voit des fois sur certains sites, hein, qui permet de mettre en avant cette première lettre par rapport aux autres. On en a d'autres, des pseudo-classes qui existent. Par exemple, vous voyez qu'on a des articles, hein. Si je retourne dans ma page HTML, ici j'ai un article là, j'en ai un autre ici qui démarre là par exemple et qui se termine un peu plus bas. On peut vouloir appliquer un style aussi à ces articles, et plutôt que d'appliquer un style directement, on veut qu'il y ait quelque chose qui les sépare, ces différents articles. Donc ce qu'on peut faire, c'est article, et utiliser la pseudo-classe qui s'appelle before, et lui dire que avant son texte, pseudo-élément, avant son texte, on veut lui afficher du contenu, donc content, et ce contenu, ça sera, par exemple, étoile, 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 étoile. Les étoiles, pour simplement délimiter les deux éléments. On met ce qu'on veut dedans, hein. Si je reviens ici et que je rafraîchis, on voit bien que ici on a un premier article où il y a ça qui s'affiche devant, puis on a un deuxième où il y a ça qui s'affiche devant, et je crois qu'on est arrivé au bout des articles. Donc automatiquement, ça affiche du contenu avant cet élément-là. On a aussi after qui permet de faire exactement la même chose. On pourrait mettre une image, on pourrait mettre ce qu'on a envie juste avant un article ou juste avant n'importe quel élément. Ça peut s'appliquer à n'importe quel élément. On a également la possibilité de dire que le premier first, donc c'est first-of-type, donc c'est le premier élément de ce type-là, on va lui appliquer un style particulier. Donc par exemple, on va dire que le premier paragraphe, on va lui mettre un style de police qui sera en italique. Ça n'a pas forcément de gros intérêt, mais donc là, on voit que le premier élément dans dans chaque groupe, premier élément de chaque groupe, paragraphe de chaque article, va être mis en italique, et on peut très bien imaginer que c'est l'introduction, la description, ce genre de choses, ce qui fait qu'on a cet élément qui est décrit de cette manière-là en italique. On peut continuer comme ça, donc on a beaucoup de choses, hein. Donc on a le first of type, on a sur les listes par exemple, on peut faire en sorte que le premier enfant, first child, va avoir un style particulier également, donc ça peut être font style italique, on va mettre la même chose, juste pour qu'on voit le comportement. Donc si je fais ça, on voit bien que le premier enfant des listes, enfin, le premier élément est bien mis en italique. On peut faire exactement la même chose sur le dernier aussi. Li, last child. On peut appliquer la même chose. Alors j'ai mis un L-I-L. Voilà. Donc le dernier enfant, on va le mettre par exemple, on va lui donner un poids de police, une graisse, on dit aussi en français, graisse de police en gras. On va lui mettre en gras, voilà. Je rafraîchis ça et j'ai bien italique et gras en haut et en bas de ma page. Enfin, pardon, chacune de mes listes. Donc, si je continue, on peut faire des choses encore plus poussées avec ces pseudo-classes. Donc, on a notamment la possibilité de lui dire que pour le XIM, donc c'est NTH of type, donc pour le troisième de ce type-là dans le scope dans lequel il est, pour le XIM, là c'est le troisième. Donc pour le troisième, on va lui mettre un text decoration égal à underline. On va souligner tous les éléments qui sont le troisième de ce type-là dans l'élément dans lequel ils sont. Donc si je rafraîchis, on voit bien que dans ma liste qui est ici, j'ai bien le troisième, 1, 2, 3, voilà, qui est souligné, enfin qui a un style particulier. Alors là, ça commence à ressembler un peu à un sapin de Noël, hein, notre page. Le but, c'est pas de faire quelque chose de joli, c'est de vous montrer un petit peu le fonctionnement et jusqu'à où on est capable d'aller avec ces feuilles de style. On peut également être plus précis dans les sélecteurs. Donc, on a la possibilité d'utiliser span pour dire que tous les spans auront un style particulier appliqué. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de dire que tous les spans qui ont un titre. Si on regarde dans le code HTML, on voit ici. Si je trouve. Voilà. Donc il y a le span qui se trouve ici, qui lui n'a pas de titre, il a simplement une classe. Et puis on a le span qui est là, qui lui a un titre, qui est une information qui peut être intéressante et utilisée de temps en temps. Donc on voit le titre qui sont tous ceux-là. Et donc pour ces éléments-là uniquement, et pas le premier, je veux appliquer un style particulier. Donc je viens ici, puis je vais lui indiquer que pour cet élément-là, je vais mettre par exemple la couleur en noir. Voilà. Donc je fais ça, alors je sais plus où étaient les autres, mais je rafraîchis et on voit bien ici que sont passés en noir tous ces éléments là qui sont avec le titre qui s'affiche quand je passe ma souris dessus, mais tous ces éléments là sont ceux qui sont mis dans une couleur particulière qui est le noir ici, parce que c'est ce que j'ai demandé. On peut aller encore plus loin, puisqu'on peut dire tous ceux qui ont un titre qui est égal à une certaine valeur. Donc tous ceux qui ont un titre qui est égal à, on va prendre un dans la liste de ceux qui existent, on va prendre par exemple First ID ici, je vais copier-coller ça. Voilà, donc celui qui a ce titre-là précisément, ou ceux qui ont ce titre-là, parce qu'il peut y en avoir plusieurs bien sûr, donc ceux qui ont ce titre-là, je veux leur appliquer un style particulier, et ce style, ça sera text decoration égale line, comment c'est déjà trop, voilà. Donc pour que ça traverse la ligne, ça barre la ligne, ça n'a pas d'intérêt, mais pour montrer le principe, hein. Donc si je fais ça, le premier est barré, mais les autres ne le sont pas. Donc on peut repréciser un petit peu des informations. Petite parenthèse ici, en tout cas on revient un peu en arrière, là on sort un peu la tête du guidon. Si on regarde, on voit bien que j'ai mon span en question, celui qui est noir et barré, il applique bien deux styles, qui sont celui-là et celui-là. Donc c'est tout à fait possible de combiner ces styles-là, et qu'un élément, je vous l'expliquais en introduction, un élément peut être affecté par deux styles potentiellement s'il est sélectionné par ces deux styles-là. Si jamais l'un va à l'encontre de l'autre, par exemple si je dis ici que je veux color égale yellow par exemple, et que je rafraîchis ma page, c'est quand il y en a deux qui sont en conflit, vous voyez couleur et couleur ici, c'est celui qui est le plus précis qui gagne. Quand les éléments ne sont pas en conflit, là d'ailleurs vous pouvez le voir, hein, on a la couleur ici, la décoration du texte, c'est deux éléments différents, les deux se combinent parfaitement et donc il n'y a pas de conflit à résoudre. Et si jamais ils sont au même niveau, donc si ici on avait aussi une sélection et ici une sélection, aussi précis avec un title égal quelque chose, et que les deux tomberaient sur le même élément, c'est celui qui est défini en dernier qui prend la main, qui écrase la dernière valeur en fait. Voilà, donc, tout simplement, hein, même si ça vous arrivera quand même pas si souvent d'arriver dans ce genre de situation. Alors on peut faire des choses plus poussées, encore une fois, puisqu'on peut également dire qu'on veut tous les A, donc toutes les encres qui ont un href, qui commencent, et ça on utilise une notation qui vient des expressions régulières, c'est avec ce petit le chapeau là, qui commence par email. Voilà. Et donc, tous ceux qui ont un href qui commence par email à l'intérieur, on aura une taille de police particulière. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir, je vais vous montrer. Ça me permet d'illustrer quelque chose qu'on n'avait pas encore vu en HTML. Si je retourne dans ma page, vous voyez que j'ai des liens. Donc, normalement, j'ai ce lien-là qui est un lien normal, que vous connaissez déjà. Hein, c'est un lien vers une URL extérieure qui est Wikipédia ici. Et là, j'ai un autre lien un petit peu différent qui utilise une notation qui est email de point quelque chose. Donc ça c'est le mail de la personne qui avait fait le cours à l'origine en anglais, et donc ce mail là, quand on clique dessus, ça va ouvrir le navigateur, le système de mail par défaut, et préparer un mail pour l'envoyer à cette personne là. Donc ce que je veux faire, c'est mettre en forme uniquement ce mail là, donc je clique sur style ici, et donc si je reviens ici, je vais voir que la taille va être un petit peu différente. Si je rafraîchis, où est le lien? Je l'ai perdu. On va certainement le voir quand on va rafraîchir. Voilà, c'est celui-là. Et donc là-dessus, si je clique là-dessus, ça va ouvrir, vous pouvez essayer avec votre mail à vous, ça ouvre directement votre système de mail et ça va vous permettre de l'envoyer, d'envoyer un mail avec Outlook ou ce que vous utilisez comme système de mail. Et enfin, quelque chose qui permet de définir la fin, donc span égale pour lequel il y a un titre qui termine par... ID ici, donc le termine c'est également, ça vient des expressions régulières et c'est le dollar à l'opposé du chapeau, et ici on peut lui dire que par exemple on veut que la texte decoration soit, pardon pas égal mais deux points overline, et donc là ce que ça va faire c'est que ça va mettre un surlignage sur les différents éléments qui sont ici de cette manière là, et ce qu'on voit c'est que, je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est qu'en fait on a ici first ID, on avait indiqué qu'on voulait un text decoration égal true, je vais commenter ça pour vous montrer. Si je rafraîchis, on voit que ça traverse le texte, parce qu'il y a un text decoration qui traverse, mais comme on a un deuxième élément qui redéfinit le même, ce que fait le navigateur c'est qu'il regarde et se dit tiens, on redéfinit le même élément, quel était le niveau de sélection de celui-là, ok, c'est un titre égal quelque chose, là c'est un titre égal quelque chose aussi, Donc du coup, bah, c'est le dernier qui gagne. Si je prends celui-là et que je le mets derrière, et que je rafraîchis, c'est bien celui-là qui gagne pour cet élément-là qui gagne par rapport au précédent. Si je reviens dans l'état de tout à l'heure, comme c'est celui qui dit l'overline qui est derrière, c'est lui qui va écraser la valeur d'avant, et du coup on est en surligné comme on peut le voir ici. Voilà tout simplement ce qu'on peut faire avec du style, notamment sur du texte. Donc là, vous voyez qu'on a fait pas mal de choses. On peut réussir à faire énormément de mise en forme et de choses de ce type-là. Ce qu'on va faire dans les prochains modules, c'est qu'on va regarder plus en détail certains points, donc particulièrement la taille des polices et ce genre de choses, de manière à ce que vous ayez le minimum requis pour pouvoir commencer à créer votre première page avec une mise en forme qui sera adaptée à ce que vous voulez faire. À bientôt pour le prochain module.